Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Poésie ininterrompue par Claude Royer-Journoux en 1975. Roland Barthes. François Val, philosophe et aussi son ami, interroge Roland Barthes sur son œuvre, son rapport à l'écriture et à la lecture, l'importance du présent, le rapport du corps à l'écriture. Roland Barthes donne lecture de « J'aime, je n'aime pas ».
Lorsque je m'écoute, ayant joué au piano, passé un premier moment de lucidité où je perçois une à une les fautes que j'ai faites, il se produit une sorte de coïncidence rare. Le passé de mon jeu coïncide avec le présent de mon écoute, et dans cette coïncidence s'abolit le commentaire. Il ne reste plus que la musique. Il va de soi que ce qui reste, ce n'est nullement la vérité du texte, comme si j'avais retrouvé le vrai Schumann ou le vrai Bach. Lorsque je feins d'écrire sur ce que j'ai autrefois écrit, il se produit de la même façon un mouvement d'abolition, non de vérité. Je ne cherche pas à mettre mon expression présente au service de ma vérité antérieure. En régime classique, on aurait sanctifié cet effort sous le nom d'authenticité. Je renonce à la poursuite épuisante d'un ancien morceau de moi-même. Je ne cherche pas à me restaurer, comme on dit d'un monument. Je ne dis pas « je vais me décrire », mais « j'écris un texte ». Et je l'appelle RB. Je me passe de l'imitation, de la description, et je me confie à la nomination. Il m'a paru que ce fragment du Roland Barthes, par Roland Barthes, de la collection Écrivain de toujours, était tout à fait en place après que nous eussions entendu Barthes lire un certain nombre de textes qu'il a écrit dans le passé, ou de textes qu'il a aimé et qu'il aime aujourd'hui. Il m'a semblé que c'était à sa place parce que ce que nous avons à faire aujourd'hui, ce n'est certainement pas une sorte de tirer les comptes, de reprendre pas à pas toute la trajectoire d'une œuvre qui est maintenant énorme, mais au contraire, beaucoup plus intéressant à mes yeux, savoir que ce que Barthes a proposé ici, c'est son présent. Et que tout ce choix de texte, c'est une définition de ce qu'il est aujourd'hui. Et de, par conséquent, ce qu'il n'a pas encore dit, d'une certaine façon. Et c'est pourquoi la première question que j'ai envie de lui poser, toutes les questions, au fond, revenant à une seule, quel portrait de lui, de son rapport au texte, de son rapport à l'écriture est donné par l'ensemble de ses lectures, la première question, dis-je, serait sur ce mot même qui revient deux fois dans le texte que j'ai lu, dans le fragment que j'ai lu, ce mot de présent. Qu'est-ce que le présent pour lui? Et je le dis d'autant plus que le présent, dans nos entours et dans les dernières années, n'a pas toujours eu bonne presse.
Oui. Je n'ai pas, en général, je ne crois pas avoir l'art des définitions, donc je ne vais pas définir ce qu'est mon présent, Je partirai d'un sentiment qu'on aurait appelé il y a 25 ou 30 ans, et que j'aurais donc appelé moi-même dans ma jeunesse un sentiment existentiel, pour rappeler qu'effectivement, l'une des choses qui me gênent le plus et qui me sont souvent les plus pénibles dans la vie, et disons dans le métier d'écrivain ou d'intellectuel, c'est d'avoir à affronter les tâches que vous réclame en général la société, qui sont très souvent des tâches de gestion par rapport à ce qu'on a écrit. Ce qu'on vous demande, c'est d'être en somme très souvent le gestionnaire du livre ou des livres qu'on a fait. Et je me sens toujours très mal placé pour être un tel gestionnaire. Je dirais que personne vraiment ne peut se constituer le gérant, et à plus forte raison ne peut se constituer le prêtre de ses propres répétitions. Je n'ai pas à gérer mes propres répétitions, mes répétitions appartiennent aux autres ou à l'autre. Par conséquent, en fait, je ne pense qu'au présent parce que je ne peux penser qu'en désirant et que je ne peux désirer qu'au présent. Naturellement, c'est un présent large, si on veut le temporaliser, je dirais qu'il a la longueur d'onde même d'un certain type d'investissement dans un objet, dans un travail, dans un livre à faire. C'est un présent qui peut être de l'ordre de 6 mois, d'un an ou deux, peut-être même une phase plus longue, n'est-ce pas? Il y a un certain moment de ma vie où j'ai beaucoup investi dans l'invention, j'ose pas dire la fondation, mais l'invention de ce qu'on appelle la sémiologie. Ça a duré quelques années. Et puis ensuite, j'ai désinvesti, je suis passé à un autre présent. On pourrait appeler ça une conception, je dirais, tout à fait viagère de l'œuvre. Et je me rappelle un mot de Lamartine, cité par Hugo, parlant de ce trait caractéristique des Français qui serait la passagèreté. Ce sont des néologismes de Lamartine lui-même, n'est-ce pas? Et comme dit Lamartine, la viagèreté, en jouant sur légèreté peut-être aussi. Eh bien, je me sens effectivement très proche d'une sorte de pratique viagère de ce que j'écris finalement.
Et il me semble que le mot capital dans ce qui vient d'être dit, c'est le mot désir. Mmh. Tout au long de l'œuvre, à travers ces différentes étapes qui est signée Roland Barthes, il y a une affirmation qui va toujours plus vivement faite, mais qui est constante, et c'est que l'écriture ou le texte a rapport au corps. Et souvent, en lisant, je me suis demandé en quel sens, là, il fallait prendre le corps. Je pense que le corps et le présent, en fait, oui, finalement, c'est la même chose, et c'est la même chose parce que c'est le désir. Ce n'est pas le corps comme chose, c'est le corps comme désir.
Oui. Bon, nous le savons maintenant, c'est le corps comme imaginaire. Il n'y a rien de plus imaginaire que le corps. Et donc, effectivement, c'est un corps, mais c'est un corps imaginaire, ça n'est pas du tout un corps dépiécé, divisé, réduit à des morceaux de ça, enfin à une sorte d'état plus ou moins schizoïdé ou schizé, qu'on peut trouver bien sûr dans beaucoup de textes extrêmement beaux de la littérature. Mon corps n'est pas ce corps-là, c'est un corps imaginaire, c'est un corps qui vise une image, qui jouit d'une image, qui aussi souffre d'une image, et qui se définit beaucoup par rapport à des images, c'est certain. Et d'où le fait que quand les images changent, les investissements changent.
Et en plus, et je pense que ce n'est pas du tout loin de ce que nous sommes en train de commenter, c'est-à-dire des lectures qui ont été faites, car ces lectures sont autant d'investissements. On va y revenir.
Oui.
Mais en plus, il y a un point qui me paraît très important, c'est que tout au long de ce discours, et de plus en plus, là encore, il y a un système de valeurs qui est mis en place. Je dis exprès système de valeurs, puisque c'est un mot qui apparaît surtout dans les derniers livres, et que ce système va dans le sens du pluralisme, de la préférence. Il est question quelque part de l'idée d'une philosophie qui s'appellerait le préférentialisme, et dont le fondement serait ben, « moi je préfère ça
ouais. »,
au fond. Ce goût du pluralisme, de la différence assumée, c'est au fond le choix de parler au nom des mutations de son désir, et d'un désir qui n'est vrai que dans la mesure même où il change continuellement.
Oui, c'est absolument vrai, mais où les choses se compliquent beaucoup, c'est que il peut y avoir un moment où le désir soit désir précisément d'une coalescence ou d'une permanence ou d'un état qui n'est finalement pas pluriel. C'est-à-dire que à l'intérieur même d'une sorte de pluralisme reconnu du désir, tout d'un coup surgit peut-être le fantasme. Le fantasme d'utopie qui ne soit pas pluriel, qui se réfère à des modes d'union, à des modes de coalescence, ou à des modes, au contraire, d'exténuation, mais de disparition quasi totale.
C'est-à-dire, en fait, le fantasme d'un pluriel qui deviendrait singulier, d'un présent qui deviendrait durable.
Oui, c'est ça, exactement. Parce que, n'est-ce pas, là, on joue sur des lignes extrêmement subtiles de la culture, de la philosophie, de l'éthique. Par exemple, je ne me sens pas la moindre affinité, toute proportion gardée bien sûr, en m'excusant pour cette comparaison, mais je ne me sens aucune affinité avec la sorte d'humanisme relativiste d'un Montaigne, par exemple. Ce n'est pas exactement ça, c'est-à-dire que dans l'espèce de pluralisme que je cherche et qui me tient à cœur, il y a finalement toujours la tentation de limite un peu, de limite non spectaculaire, mais de limite soit dans le sens d'une complétude inouïe, soit au contraire dans le sens d'une défection totale. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les textes que j'ai lus, il y a un texte qui peut-être en soi a paru assez ennuyeux, c'est un texte de Novalis, extrait de Henri d'Ofterdingen, n'est-ce pas, qui est la description d'un état de fusion et d'union complète entre Mathilde et Henri. Et cette fusion apparaît maintenant, je crois, dans la sensibilité actuelle comme quelque chose de très anachronique. Ce n'est pas conforme à la sensibilité d'avant-garde. Mais moi, ça m'intéresse justement en tant que limite et en tant qu'anachronisme même. Comme d'ailleurs tout ce qui a trait justement au thème amoureux, puisque finalement, les textes que j'ai lus, les textes qui ne sont pas de moi que j'ai lus, ont tous trait au sentiment amoureux et au discours amoureux.
Bon, alors je crois qu'ici, il faudrait, si on s'arrête un peu sur ce thème, qu'on passe par une série de distinctions. Il y a, et Barthes l'a souvent dit lui-même, au fil de son travail, une série de distinctions, de dichotomies autour desquelles il balance toujours. Et parmi ces dichotomies, dont la plus fondamentale est celle, finalement, entre la nature et, je vais pousser tout de suite à l'autre extrémité, le signifiant. Je crois que finalement, c'est ça, la nature comme idée d'un sens qui serait donné, et du sens même, et de l'autre côté, le signifiant comme la pure lettre ou le pur symbole. Indépendamment de toute espèce de sens, le sens n'étant qu'un effet de ce signifiant. Eh bien, dans cette série de dichotomies, il y en a une qui est, je crois, très importante et qui rôde en dessous de tout ce que Barthes a écrit de la littérature, c'est l'opposition entre érotique et érotisation. Et j'aimerais beaucoup qu'on reprenne alors les textes sous ce biais-là. Qu'est-ce que ce serait qu'un texte érotique et qu'est-ce que c'est que l'érotisation du texte, ce qui ne veut pas du tout dire que c'est un texte d'ailleurs où il est question d'érotisme.
Oui, enfin l'érotisation opposée à l'érotisme, au fond c'est centré, si vous voulez, la sensation comme valeur. C'est demander au fond qu'une sensation ne prenne pas. Ça a trait toujours à cette métaphore de prendre, mot que je prends, si je puis dire, en le tirant de l'art de la cuisine, n'est-ce pas, une mayonnaise qui prend ou une crème qui prend, et au fond, toutes les choses se déterminent pour moi par rapport à ça. Il ne faut pas que les choses prennent, il faut qu'elles se déprennent, et par conséquent, l'érotisation, en tant que processus léger, qui va vers une sorte d'évanouissement, qui va justement de signifiant en signifiant, à travers l'espace infini de la signifiance, pour moi, c'est là qu'est la valeur contre l'érotique ou l'érotisme qui serait un système fini, enfin, de pratiques et de signifiés qui ont pris, qui sont solidifiés et qui donc, finalement, à ce moment-là, leur avenir naturel, c'est de devenir des stéréotypes, ce qu'ils deviennent en général toujours.
Mais est-ce qu'il y a un moyen de repérer comment fonctionne alors l'érotisation dans les textes qui ont été lus ?
Bien, l'érotisation...
Y compris les textes de Barthes.
Ça, je ne saurais dire. Mais disons que l'érotisation suppose qu'on ait le droit de lire un texte, si je puis dire, à plusieurs degrés. Qu'un texte ne se donne pas seulement au premier degré, mais qu'on puisse l'entendre, l'écouter au second et au troisième degré. C'est ce que je dirais justement pour le texte de Novalis que j'ai lu, qui au premier degré paraît un texte très anachronique, à la fois sublime, métaphysique et tout à fait démodé, et légèrement ennuyeux peut-être dans le vocabulaire, d'un romantisme éperdu. Alors si on le lit au premier degré, c'est comme ça qu'on va le lire, qu'on va le recevoir, mais si on le replace dans une certaine expérience de l'amour en tant que folie invisible, à ce moment-là, le texte va effectivement s'érotiser et il ne sera plus ennuyeux, en quelque sorte. Il ne sera plus ennuyeux parce que, justement, il sera déplacé, il sera déformé. Au besoin, on le vivra ou on le lira selon un certain contresens admis. On fera ce que j'appelle de la contre-philologie. Et à ce moment-là, l'érotisation commence, au fond. L'érotisation commence à la contre-philologie. La philologie, c'est pas l'érotisation, c'est certain.
La philologie, c'est le code, au fond, c'est toujours, ça aboutit toujours à une traduction.
Oui, la philologie, ce n'est ni la lettre, ni le contresens. C'est très mal placé, n'est-ce pas ? C'est la première interprétation en tant qu'interprétation vraie, entre guillemets, et c'est pour ça qu'elle ne peut pas se prêter à l'érotisation. Il faut donc admettre, non pas, je dirais, de déformer systématiquement un texte, ça n'a pas d'intérêt, c'est une conduite purement contestataire qui serait assez naïve et assez enfantine, mais il faut admettre de pouvoir lire des textes à 1, 2, 3 ou 4 degrés, un petit peu.
Et avec cette idée très importante, je crois, que dans le texte lu ainsi, il y a toujours un sujet, que ce sont des textes qui ne sont pas simplement des énoncés, comme on dit aujourd'hui, oui, mais qui ont une énonciation, oui, mais que cette énonciation résulte du texte même, oui, et qu'elle n'est pas donnée d'avance, mais qu'elle se meut avec, voilà, avec l'érotisation, avec, voilà, la pluralisation, voilà, et que donc les textes proposés sont des textes dans lesquels on invite à voir naître un sujet et à le suivre dans sa fuite.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire que si on lit donc ce texte de Novalis, que j'ai pris comme exemple, il ne faut pas du tout essayer de retrouver la vérité de l'énonciation de Novalis. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Donc de le soumettre à une enquête philologique, ou même historique, ou expressionniste. Ce qu'il faut penser, c'est que lorsque je vais reprendre le texte pour l'énoncer moi-même, le mettre dans mon énonciation, imaginaire ou désirante, etc., à ce moment-là, je vais retrouver l'énonciation même de Novalis. C'est-à-dire que la vérité du texte de Novalis, c'est ma lecture. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que les textes peuvent être transhistoriques, qu'ils peuvent traverser l'histoire. J'aime la salade, la cannelle, le fromage, les piments, la pâte d'amande, l'odeur du foin coupé, les roses, les pivoines, la lavande, le champagne, des positions légères en politique, Glenn Gould, la bière excessivement glacée, les oreillers plats, le pain grillé, les cigares de Havane, Handel, les promenades mesurées, les poires, les pêches blanches ou de vigne, les cerises, les couleurs, les montres, les stylos, les plumes à écrire, les entremets, le sel cru, les romans réalistes, le piano, le café, Pollock, Twombly, toute la musique romantique, Sartre, Brecht, Jules Verne, Fourier, Eisenstein, les trains, le Médoc, le Bousy, avoir la monnaie, Bouvard et Pécuchet, marcher en sandales le soir sur de petites routes du sud-ouest, les Marx Brothers, le Serrano à 7 heures du matin en sortant de Salamanque, etc. Je n'aime pas les loulous blancs, les femmes en pantalon, les géraniums, les fraises, le clavecin, Miro, les tautologies, les dessins animés, Arthur Rubinstein, les villas, les après-midi, Satie, Vivaldi, téléphoner, les chœurs d'enfants, les concertos de Chopin, les danseries de la Renaissance, l'orgue, Marc-Antoine Charpentier, ses trompettes et ses timbales, le politico-sexuel, les scènes, les initiatives, la fidélité, la spontanéité, les soirées avec des gens que je ne connais pas, etc. J'aime, je n'aime pas. Cela n'a aucune importance pour personne. Cela apparemment n'a pas de sens. Et pourtant, tout cela veut dire « mon corps n'est pas le même que le vôtre ».
J'aimerais bien que peut-être ce mouvement d'apparition du sujet dans le texte au moment où on lit le texte, et en quelque sorte par l'effet de la lecture du texte, on essaye de le repérer sur un autre fragment qui alors est proprement un fragment de Barthes, c'est le texte « J'aime, je n'aime pas ». Ça me paraît un particulièrement bon exemple parce que, en apparence et au premier degré, c'est une description psychologique ou une description d'humeur.
Oui.
Alors, comment ressaisit-on ici toute autre chose à la lecture et comment ce qui se passe est le surgissement d'un, pour employer une expression de Barthes, sujet sans référent?
Eh bien, quand je donne la liste volontairement anarchique de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas, qui sont d'ailleurs des choses extrêmement labiles. Et dans ce que j'ai lu aujourd'hui, j'ai fait tomber certains articles parce que j'ai simplement changé de goût depuis le moment où je les ai écrits. N'est-ce pas ? Je n'ai plus dit cette fois-ci que je n'aimais pas Bartok parce que je commence à aimer Bartok. Donc j'ai supprimé de ma liste. Dans un premier temps, j'ai l'air d'offrir au lecteur une liste de traits qui vont définir positivement mon caractère. En disant « voilà, voilà ce qu'il est ». Or, en réalité, ce que je pense, ou même ce que je prétends offrir au lecteur, c'est premièrement l'occasion de lire une différence, de se sentir différent de moi, puisqu'il n'a pas les mêmes goûts que moi. Donc, je lui offre l'occasion de percevoir, de sentir sa propre différence. À partir du moment où il perçoit sa différence, il me la renvoie. Et si je puis dire, je n'existe plus justement en face de lui, en face de ce lecteur que je me suppose, je n'existe plus que comme le terme d'une différence, le terme vide d'une différence. C'est-à-dire que nous sommes pris tous les deux dans un jeu de la différence, d'où tout contenu est frappé de la plus grande inanité, de la plus grande vanité. Disons que pour moi, l'intérêt de l'expérience d'écriture, c'est la feinte. C'est-à-dire que je le fais en feignant de me proposer comme une personne constituée avec des goûts et des dégoûts.
Alors il semble, et on en a dit un mot en commençant, il semble que au présent, aujourd'hui, pour Barthes, l'acte de lecture, et ça, d'une certaine façon, ça représente pour lui une certaine nouveauté, l'acte de lecture soit un acte de moralité. Il y a une nouvelle dichotomie ici entre morale et moralité. La morale, bon, on sait bien ce que c'est, étant de nouveau un système constitué, quelque chose qui a pris comme une mayonnaise. Et la moralité, alors, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que ça oriente des choix de lecture?
La moralité, de toute manière, l'élément minimal que je peux dire, c'est que la moralité comporte toujours une pensée du corps, disons, ce que la morale ne comporte pas. La moralité, c'est une pensée du monde un peu en fonction du corps, à partir de valeurs établies comme valeurs par le corps. C'est un peu ça, la moralité. C'est-à-dire, c'est le corps en tant qu'il assume un processus, pour ainsi dire, infini d'évaluation, au sens nietzschéen, c'est-à-dire qu'il pose sans cesse des valeurs, comme dans « j'aime, je n'aime pas » finalement, mais qu'en même temps, comme ce processus est infini, la moralité reste toujours une moralité et ne devient jamais une morale.
J'avais noté cette définition qui est très belle, mais aussi passablement elliptique, la moralité, pensée du corps en état de langage.
Oui, c'est ça, oui. C'est le moment où le corps affleure, comme dans justement le processus d'érotisation, les codes les plus raides, si je puis dire, du langage, à savoir le code stylistique, le code rhétorique, enfin le code écrit. Mais à ce moment-là, il se sert aussi du langage pour entrer en état de feinte, en état de tricherie, en état de vol quelquefois, un peu comme j'ai essayé de décrire ce que j'ai fait dans le « J'aime, je n'aime pas ».
Je voudrais qu'on sente bien ici ce qu'il y a proprement d'historique dans l'attitude ainsi définie au regard de la lecture. Pendant très longtemps, et d'une façon qui nous est très difficile à saisir aujourd'hui, la lecture a été conçue, pendant toute l'époque classique en fait, a été conçue comme un choix d'enseignement, comme une pédagogie morale, alors au sens moral et pas moralité. Puis, il y a eu tout le 19e siècle où la lecture a été un processus d'identification, de fusion imaginaire. Et ici est proposée, à l'égard de toute poétique, de toute textualité, une attitude de saisie par le désir et par la mobilité du désir. Cela revient à dire que ce n'est pas simplement une série de fragments qui ont été lus ici par goût, mais que proprement leur choix renvoie à un nouveau parti dans la lecture. Est-ce que d'abord cette définition est admissible ?
Ah oui, certainement. Bon, je dirais que nous sentons tous maintenant assez fortement, et je crois qu'on l'a écrit, en tout cas moi je l'ai écrit, pendant très longtemps, peut-être même pendant des siècles, ou en tout cas pendant un siècle ou deux, on a vu dans le fait littéraire que, disons, son terme de démission, c'est-à-dire on a vu l'auteur, ensuite on a vu l'écriture, et on n'a jamais interrogé véritablement la lecture. C'est vraiment, je dirais, une catégorie d'avenir, la lecture. C'est une théorie de la lecture, de même qu'il y a une théorie de l'écriture qui s'élabore, enfin, assez soigneusement en ce moment. Bon, une théorie de la lecture est possible actuellement parce qu'il y a eu, depuis, disons, une trentaine d'années, ces deux regards nouveaux, ces deux coupures très importantes pour toute notre vie théorique, à savoir la coupure freudienne et la coupure marxienne. Le fait que maintenant, il y a deux instances qui sont là dans notre champ, qui est d'une part l'instance idéologique, l'instance de la critique idéologique d'une part, et d'autre part l'instance de l'inconscient. Par conséquent, maintenant, nous pouvons peut-être aborder une sorte de théorie de la lecture. Et à ce moment-là, seulement, elle n'est pas faite. C'est encore très compliqué. Il est certain que, bon, maintenant, les impératifs anciens de type éducatif, enfin, la lecture d'enseignement, c'est très limité au manuel et au livre scolaire, disons, et encore avec beaucoup de déchirements, puisqu'on sent très bien que ça ne tourne pas très rond de ce côté-là, qu'il y a des problèmes. Mais je dirais qu'à part cela, maintenant nous savons bien que dans la lecture, il y a des motivations de désir, de plaisir, il y a des éléments de jouissance, bien que le mot soit très difficile à définir. Cela dit, ça reste très compliqué parce que rien ne dit que dans la lecture, par exemple, on ne doive pas conserver une certaine notion ou un certain pouvoir de l'identification, de ce qu'on appelle la projection. Jusqu'à présent, on croyait qu'effectivement, lire faisait plaisir parce qu'on se projetait dans le héros, par exemple, du roman, ou dans l'héroïne du roman. Et la théorie moderne du texte a été en général assez dédaigneuse à l'égard de ces motivations d'identification et de projection. Effectivement, dans un texte d'avant-garde, à première vue, il est très difficile de se projeter, n'est-ce pas, en tant que personne, de s'identifier. D'ailleurs, il n'y a plus de personnages, il n'y a plus de héros.
Seulement, ce qui me paraît très intéressant et à quoi je voudrais bien qu'on prête attention, c'est que, tandis que le plus souvent, ce qui nous entoure semble dire que l'écriture contemporaine, que le texte, engage moins celui qui en prend la responsabilité. Tout ce qui a été dit ce soir revient au contraire à marquer que dans l'écriture et la lecture, il y a un engagement qui est au niveau, je dirais, le plus risqué d'un sujet écrivant ou lisant, qui est précisément le niveau du désir, qui, en définitive, je répète, est beaucoup plus risqué, et livre à qui l'entend une prise beaucoup plus grande sur soi qu'aucun processus d'émotion, d'affectif, etc.
Oh, ça c'est certain. Mais ce que je voudrais dire, c'est que par rapport aux textes modernes, enfin que souvent on taxe d'illisibilité, il faut bien comprendre qu'il y a tout de même un acte, disons, de projection ou d'identification, mais il se situe justement non pas au niveau de ce qui est représenté, mais au niveau de la production même de ce texte. Je dirais que lire un texte dit d'avant-garde, c'est vraiment parvenir à mettre sa main par-dessus la main de celui qui a écrit le texte, n'est-ce pas ? Et donc, de l'écrire en après-coup avec lui, je dirais que c'est un peu un rapport qui est bien connu dans la psychologie de l'infance, enfin du bébé, quand précisément la mère, par exemple, tient en même temps que lui, n'est-ce pas ? La nourriture, la cuillère, par exemple, n'est-ce pas ? Et la bonne mère, c'est précisément celle qui tient un peu, mais qui ne tient pas trop, qui aide un peu, mais qui n'aide pas trop. Eh bien, je dirais que le bon texte, c'est celui qui procure comme ça une possibilité
d'identifier. Qui procure du manque.
Qui procure du manque, oui, mais qui procure aussi une sorte d'appât, enfin de début, de promesse. Et c'est cela, au fond, le bon texte moderne.
Alors, j'aimerais bien, pour finir, qu'on essaye de mettre en place quelque chose qui a été avancé dans le plaisir du texte et qui, évidemment, court à travers toute expérience de la lecture, c'est-à-dire ce qui est plaisir et ce qui est jouissance.
Oui, alors, moi, je l'ai dit plusieurs fois, c'est une opposition, il ne faut pas lui faire un sort parce qu'elle est extrêmement difficile à honorer. C'est un peu, disons, ce sont des artifices d'exposition, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne soient pas faux, qu'ils ne soient pas vrais. C'est un peu comme la fusée porteuse, plutôt le support qui permet à une fusée de partir. Alors il est nécessaire de distinguer entre plaisir et jouissance à ce moment-là. Mais la jouissance de l'écriture et donc la jouissance de lecture, en réalité, on ne sait pas encore ce que c'est. Je veux dire que c'est. Je crois que maintenant, nous sommes tous très largement d'accord sur le fait qu'il y a une jouissance de l'écriture, et on le sent par les appels de textes, par la circulation des textes qui se cherchent en dehors, justement, des contraintes commerciales, n'est-ce pas ? Par le fait même que des textes veulent s'écrire en dehors des contraintes commerciales, en dehors des éditeurs. Nous savons bien qu'il y a une jouissance de l'écriture, mais cela dit, nous ne savons pas du tout quelle elle est, nous ne savons pas bien en faire la théorie.
J'aventurerais quand même que quand il y a plaisir, on est renvoyé à son corps comme surface.
Oui.
Et que quand il y a jouissance, on y est arraché vers une altérité véritablement insaisissable.
Exactement. Moi, c'est ainsi que je conçois, d'ailleurs je l'ai un peu dit, la distinction. Le plaisir, disons en caricaturant, est de l'ordre du confort. C'est effectivement le glissement très euphorique du texte qu'on lit sur votre propre peau, en général, surtout si on est bien installé pour lire. C'est le plaisir du bon roman ou le plaisir du beau texte. Ça glisse le long de votre propre image, n'est-ce pas, dans une sorte d'aise et d'euphorie. Et dans une sorte de sentiment, justement, de reconnaissance, d'identification à ce qu'on lit. D'identification au contenu, à la représentation qui est dans ce qu'on lit. Tandis que la jouissance, bien entendu, c'est beaucoup plus énigmatique, ça n'est pas mystérieux, mais c'est énigmatique, c'est effectivement un arrachement, ça peut donc prendre quelquefois d'ailleurs la forme de l'ennui, il peut y avoir des ennuis violents, il peut y avoir des rejets violents devant un texte qui sont finalement, sans qu'on le sache, des actes de jouissance. Et c'est le moment où effectivement on est divisé, on est dépossédé, on est perdu à travers des affects qui peuvent être très surprenants, qui peuvent être de l'ordre justement du déchirement, de l'agacement, de la rage, de l'ennui compact, de l'indignation, etc.
Oui, j'aimerais dire, mais ça n'en est pas absolument le lieu, que tout de même ce qui fait exactement le caractère unique de l'œuvre de Barthes aujourd'hui, c'est que c'est la seule qui donne à la fois plaisir et jouissance. Je ne le dis pas du tout parce que nous sommes en train de parler, je le dis parce que je le crois.
Oui, donc je crois tout de même, disons que l'éthique d'écriture en ce qui me concerne est plutôt dirigée vers des formes de plaisir ou vers.
Non, mais c'est traversé
formes
par des éclairs qui sont jouissance pour le lecteur.
Oui, ça, je le souhaite, mais sans trop l'espérer, disons. Mais évidemment, ça serait le sens même de l'écriture, ça serait de tenir une fois de plus dans la main, c'est ce que le texte que je lisais tout à l'heure, les deux reines en même temps, n'est-ce pas ? Les reines du plaisir et les reines de la jouissance.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 2 novembre 1975.